Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode. Je pense que c'est le 12e de la deuxième saison de Dossier bizarre. Jason Lévesque est avec vous en compagnie de...
Paul!
Salut Paul!
J'ai changé de nom.
Ben oui,
j'ai
Paul!
J'ai changé de nom.
Ben c'est correct. Juste Paul.
Pas de nom
bon,
de famille.
On est avec juste Paul. Tristan Brunet-Dupont, bonjour.
Salut Jason, ça va
bien?
Ça va bien toi?
Ouais, ça va bien. Toujours en confinement, toujours en mesure de distanciation sociale. Parce que là, je l'ai dit, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un en 2048 qui va tomber sur cet enregistrement-là.
Ben, oui.
Puis on dit, ah, ça c'était la belle époque, ça, qu'on était pris chez nous, là.
C'était la première pandémie.
En 100 ans.
C'est ça.
Mais oui, donc voilà. Donc toujours en pleine COVID-19, mais on peut maintenant là, regagner certaines libertés. Alors depuis deux ou trois épisodes, on peut le faire en studio, ce qui améliore bien sûr la qualité sonore. Et on a un contact visuel aussi qui peut des fois faciliter un peu l'interaction, parce qu'à distance, c'est pas toujours évident. Alors, hey Tristan, c'est toi qui nous présente un sujet cette semaine, et ça va faire un jeune heureux, M. Aziz, qui a attend avec impatience que l'on traite des...
loups-garous!
Les loups-garous! Hey, ben oui! Hé hey, là là!
Hein? Ça, c'est de la fatigue, ça. Je me permets même de faire le cri du loup-garou, je suis un peu gêné. Bon. OK, on va y aller avec le loup-garou.
Alors, le loup-garou, Tristan, c'est une créature mythique qui ne date pas d'hier.
Non, exactement. Comparativement à l'autre créature que je vous ai parlé, le Wendigo.
Le Wendigo.
Le Wendigo, il y avait peu de données sur le web.
Non, c'est ça, il n'y en a pas énormément. Il est moins populaire, pas mal, cette bébite-là.
Exactement. Mmh. Et le loup-garou, c'était le contraire, le contraire. Une avalanche de paperasse, de documents, d'études, de résumés.
On est probablement le 700 millionième podcast qui parle du loup-garou.
Ben, je dirais même que c'est trop populaire. C'est
ça. Tannant. Mais il y en a à toutes les années ou à toutes les 2-3 ans, il y a un film qui sort, qui a un loup-garou quelque part, ou une télésérie. La première série originale de Netflix, ça s'appelait Hemlock Grove, et il y avait des loups-garous là-dedans. Et c'était la première série là, produite par Netflix. Et ils ont choisi le sujet des loups-garous. C'est comme gagnant. Hein? C'est comme une valeur sûre dans les créatures. Moi, si j'avais de l'argent à investir d'une créature, j'investirais dans les loups-garous.
Ah, c'est une bonne idée.
Hein?
C'est gagnant, ça pogne, que ce soit une série, un film, un livre. Si tu parles des loups-garous, tout de suite, l'oreille se tend. On est comme un loup-garou. C'est intriguant.
Hey. Il y a eu la série Twilight, hein, que c'est les loups-garous contre les vampires. C'est on en voit partout. C'est encore très populaire en 2020, malgré que c'est une créature qui date d'il y a très, très, très longtemps.
Exactement. On va effleurer un peu les sujets, tu sais, aujourd'hui, au niveau général, parce qu'on pourrait vraiment, on pourrait en parler, Jason, jusqu'à l'an 3000.
Si on veut. Ben, on n'a rien que ça à faire, on peut pas sortir.
Bon, on va le faire à peu près entre 30 minutes et 60 minutes. Comme
excellent. Ben oui, comme d'habitude.
On y va. Premièrement, Jason.
Oui.
Selon toi, si je te pose la question, comment tu penses qu'on se transforme, qu'on devient un loup-garou?
Ben écoute, moi, dans ma jeunesse, les histoires de peur qu'on se racontait, les loups-garous étaient souvent dans ces histoires-là. Mettons qu'on était là, camp d'été, puis on va en camping, on est autour du feu, et là, on se raconte des histoires de peur avec la lampe de poche en dessous du menton. Là.
Ouais.
Et les loups-garous, c'était toujours en lien avec la pleine lune, et il fallait se faire mordre par un loup-garou pour devenir un loup-garou. C'est comme ça qu'on devenait un loup-garou.
Eh bien, ça fait partie des causes.
Ah, parce qu'il y en a d'autres.
Il y en a une panoplie.
Fait qu'il y a plus qu'une manière de devenir un loup-garou.
Exactement.
Fait qu'on choisit celle qui nous convient.
C'est exactement ça.
Ah, c'est excellent.
Et donc, en gros, là, c'est une malédiction, les causes qui peuvent faire en sorte. Il y a des malédictions, un rite volontaire, la morsure ou même la griffure d'un loup-garou.
Ah.
Toutes ces causes-là existent là, pour expliquer la transformation d'un homme en loup-garou.
Donc, tu dis volontaire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire comme une espèce de rituel parce qu'il y a le désir de devenir un loup-garou.
Oui, exactement. Donc, on va revenir plus tard sur les causes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis il
doit être bon aux Olympiques. Peut-être que c'est une raison sur quelqu'un voudrait devenir un loup-garou pour courir vite.
Ben, les rites virtuels, j'en glisse un mot, mais on va revenir dans
Les
berserkers. Ah, les berserkers.
Ça, oui, les guerriers, ça, c'était les Vikings. Ça.
Exactement.
Ouais, ouais.
Les Vikings. Donc, on y reviendra un peu plus
ouais,
tard.
Oui, absolument, parce que ça aussi, c'est une méchante gang de malades. Ça.
Exactement. Oh, yeah, yeah. Vous allez voir là, que ça a inspiré l'imaginaire des humains depuis.
Ben oui, hein, puis on s'en sert tellement maintenant, mais dans les jeux vidéo, de oui. ce genre de trucs-là.
C'est vrai, ça. Hey. C'est vrai. Pour vrai, j'étais surpris de voir l'ampleur mm-hmm. que le loup-garou a eu dans l'histoire.
Ça a tout un impact sur notre culture d'aujourd'hui, notre culture populaire d'aujourd'hui.
Exactement. Ah. Selon toi, Jason, deuxième question.
Hey.
Depuis combien
là,
de temps?
Tu te venges à cause des mythes, hein, des légendes urbaines. Là, hein? Vas-y, exactement. Pose ta question.
Plus de temps qu'à ça, tu m'en as posé tellement au dernier dossier bizarre. Là. On va faire ça plus en interaction.
Ben, absolument, vas-y.
Depuis combien de temps ça existe, la légende des loups-garous? Depuis combien de temps?
Écoute... Ben, moi, l'histoire de loup-garou qui me passionne le plus ou qui m'a le plus surpris, je vais dire ça comme ça,
ouais.
Parce que c'est pas, j'ai pas énormément d'informations, mais une des histoires de loup-garou qui m'a pris par surprise un peu, ça se passe au début des... Ben, en fait, là, à peu près en 1200.
OK, OK.
Peut-être même un petit peu avant ça. Et ça met en scène nul autre que Saint-Patrick.
Ah!
Saint-Patrick, le fameux saint de l'Irlande.
Okay, oui.
Quand on fête la Saint-Patrick, là, ben c'est lui, ça.
Okay,
et okay. Saint-Patrick, dans ses récits d'aventure et de... lui, c'était un missionnaire, donc il allait convertir les gens, il allait répandre la bonne nouvelle. Et il dit que dans ses histoires, qu'il est arrivé dans un village à un moment donné et que les hommes étaient agressifs et soudainement, la pleine lune est sortie. Et là, ils se sont transformés en loups-garous et ils l'ont attaqué.
Ah, ouais.
Et ça fait partie de ces récits-là. Réellement, là, le Saint-Patrick a raconté l'histoire qu'il est arrivé à Ossory, qui était un village en Irlande, et qu'il s'est fait attaquer par des hommes loups, qui se sont transformés en loups. Fait que moi, là, je me dis, si lui en a parlé, c'était probablement déjà quelque chose qui existait. Là. Alors c'est probablement que ça date d'avant ça même, avant 1200, parce que lui en a parlé probablement parce qu'il avait déjà entendu une histoire similaire ou quelque chose qui se rapprochait de ça.
Ben, c'est cool que tu apportes ceci, parce que durant l'époque médiévale, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mm-hmm.
Des loups-garous, c'est vraiment une époque où le loup-garou était populaire. T'sais, c'est pas juste de notre époque, c'est pas populaire seulement aujourd'hui, durant l'époque contemporaine, c'était extrêmement populaire à l'époque médiévale aussi. Et ça a vraiment commencé là, au tout début des premières civilisations humaines.
Okay.
La civilisation grecque, la mythologie, ça vient de la mythologie grecque, les loups-garous.
Ben, un loup-garou, c'est un homme loup.
Oui.
Et des représentations, moi je pense aux Égyptiens, ça me vient comme ça en tête, là, les hommes oiseaux, les hommes chats, les hommes...
Ouais.
Il y avait beaucoup de représentations des anthropomorphes qu'on appelle, hein, donc corps humain, tête d'animal ou tête d'homme avec un corps, un mélange homme-animal, c'est ce qu'on appelle des anthropomorphes ou des animaux qui ont des comportements humains. Souvent, on va aller vers l'anthropomorphie ou les anthropomorphes. Exact. Et les Égyptiens, quand on regarde l'iconologie égyptienne, il y a beaucoup de mélanges hommes et animal, là, un animal quelconque, c'est souvent des têtes d'oiseaux.
Exactement.
Fait que je me dis... Si eux autres faisaient ça, probablement qu'il y avait aussi peut-être là, des parties méchantes ou quelque chose comme ça, où il y avait des animaux moins fun un petit peu. Là.
Ben, c'est exactement ça. La mythologie grecque et la mythologie égyptienne, c'est tellement des époques qui sont riches en imagination. Hein. Comme tu le dis, on imaginait des créatures mélangées avec des humains énormément.
Ouais.
Et le loup-garou vient précisément de la mythologie grecque. Donc, à l'époque de l'Antiquité, au tout début, vraiment des premières civilisations humaines. Donc, c'est ancré en nous.
Quand on avait des civilisations qui commençaient à s'organiser, parce qu'on sait, bon, les Grecs ont plus ou moins créé le système social tel qu'on le connaît aujourd'hui. Évidemment, il est très modifié. Mais de se rassembler, puis bon, le nombre fait qu'on est mieux protégé, on est mieux organisé. Quelqu'un qui est bon en architecture, quelqu'un qui est bon en agriculture, quelqu'un qui est bon en médecine, quelqu'un... Et on se regroupait pour profiter des talents de tous. C'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'était les premières civilisations organisées, mais il y avait des bébites pas très le fun non plus dans leurs histoires.
On peut penser au Minotaure,
oui.
Qui revient souvent, l'homme taureau.
Ben oui.
L'homme loup existait aussi dans les mythologies, dans la mythologie grecque.
Ça remonte à très, très loin. On est bien avant là, à Saint-Patrick. Là.
Exactement. La description qu'on en fait, la première description du loup-garou, c'est justement il y a des milliers d'années, à peu près 2-3 000 ans, les lycanthropes sont majoritairement décrits comme des êtres maléfiques possédant les capacités du loup et de l'homme à la fois, une force colossale et d'une grande férocité puisqu'ils sont capables de tuer de nombreuses personnes en une nuit.
Ah.
Et un point très intéressant, ils se rappellent rarement leurs méfaits nocturnes après avoir repris forme humaine.
C'est souvent quelque chose qu'on voit dans les films, dans les livres, dans les séries. Justement, la personne va « Oh non! » Il redevient un homme. C'est comme « Oh non, je n'ai plus de vêtements, mais que se passe-t-il? » Et il ne sait pas pour trop ce qui s'est passé. Il trouve qu'il y a du sang sur lui ou bon qu'il y a quelque chose, là, un corps à côté de lui. Et là, il ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé. Puis là, il angoisse à savoir « Mais qu'est-ce que j'ai fait? »
Non, c'est exactement ça. Blackout.
Oui, ben c'est ça. Comme quelqu'un qui a trop bu, entre autres, peut faire ça aussi, il se réveille le matin. Puis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait?
Exactement. Lysanthrope, qu'est-ce que. Tu sais, on a souvent le synonyme, le lysanthrope,
ouais.
Pour désigner un loup-garou.
Oui.
Le lysanthrope, là, ça vient d'une maladie mentale qu'on appelle la lysanthropie.
Oui.
Et la lysanthropie, là, c'est scientifiquement reconnu comme symptôme d'une maladie mentale dans laquelle la personne se croit changée en loup. On parle alors de lysanthropie clinique.
Oui, et c'est vraiment un diagnostic qui,
oui.
Mettons qu'on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui, mais pendant une certaine période, oui, on en parlait beaucoup. Et il y a quand même des cas là, relativement récents, mais c'est pas quelque chose qu'on entend parler très, très souvent. Là. C'est extrêmement rare.
Exact, j'avais déjà entendu lysanthrope, mais je ne savais pas tout d'où ça venait. Et ça vient du langage du grec ancien, justement, de la mythologie, pas de la mythologie, mais du grec ancien. Oui. Et lysanthrope, ça veut dire justement « homme se changeant en loup ». Et on a décidé de prendre ce mot-là pour désigner la maladie de la lysanthropie. Un lysanthrope, c'est un homme qui se croit de devenir un loup, alors qu'en réalité...
Il y en a qui agissaient comme tel. Hein?
Oui.
Et malheureusement, j'ai pas retrouvé l'histoire, mais j'ai lu il y a très longtemps une histoire, une vraie histoire qui se passe... dans les années 1500 ou 1600, dans un village où on a dû intervenir parce qu'un homme se prenait pour un loup, croyait qu'il était devenu un loup et attaquait les autres villageois. Et vraiment, il agissait comme s'il était devenu un loup. Et dans sa tête, il avait la capacité de devenir un loup et il se comportait comme tel.
Ah ben tu vois, c'est intéressant. On va y revenir justement. Mm-hmm. Il y a plusieurs explications qui expliquent comment, pourquoi il y a des humains qui pensaient qu'ils étaient des loups.
Mm-hmm.
C'est arrivé dans différentes époques et pour différentes raisons dans l'histoire de l'humanité.
Ben c'est intéressant, ça.
Et on va y revenir là, durant le podcast.
Ben oui.
Je te parlais d'un sujet extrêmement populaire qu'on aurait pu en parler jusqu'en l'an 3000.
Ouais.
Parce que, écoute, il y a des théologiens, des anthropologues, des enquêteurs, des médecins, des occultistes, des spécialistes du loup, des cryptos...
zoocryptologie.
Qui travaillent à trouver des explications.
Parce qu'il y en a qui croient encore que ça existe.
Oui, exactement.
Il y a des chercheurs qui se spécialisent. Comme il y a des chercheurs sur le Bigfoot, il y en a beaucoup plus, là, parce que le loup-garou, bon, c'est peut-être rendu un peu plus confirmé ou connu que non, ça n'existe pas. Mais il reste qu'il y a quand même des gens qui y croient et qui continuent à faire de la recherche là-dessus.
Oui, totalement, totalement. C'est très, 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 très populaire et on y croit depuis toujours. Cependant, c'est carrément déprouvé.
Ouais, non, c'est ça. Ça a été
la science.
Ça a été prouvé. La science a décidé que non, ça n'existait pas. Hors de tout doute.
À moins qu'on porte un joli costume.
Eh bien, voilà. À l'Halloween, des fois, il y en a.
Ben, c'est ça, exactement. Mais sinon, c'est vraiment prouvé là, que la science l'a dit. Là. Écoutez, les loups-garous, c'est des légendes, c'est des mythes, c'est des témoignages, c'est des maladies mentales. Mais on n'a jamais, jamais, jamais pensé pas qu'on va retrouver ou qu'on en trouve. Là, c'est comme le Bigfoot, tu sais.
Ouais.
Il y a un petit doute quand même qui plane.
Oui, ben c'est parce que...
Mais le loup-garou, pas vraiment. Le
non,
doute est comme très écarté, là. C'est quand même assez...
On est certain du côté de la science. Tandis que Bigfoot, il y a quelques scientifiques qui disent « Amenez-moi une preuve, puis je vais le croire, je laisse la porte ouverte. Si jamais vous m'amenez quelque chose, là, on le verra. » Mais entre-temps, c'est sûr que le scientifique comme tel ne croit pas à Bigfoot nécessairement, mm-hmm. mais il ne ferme pas complètement la porte. Alors que pour le loup-garou, la porte est fermée, est barrée, puis on a jeté la clé.
C'est exactement ça. Je vais vous parler un peu des loups mangeurs d'hommes.
Les loups mangeurs d'hommes. On a eu la bête du Gévaudan, hein, entre autres, qui...
Exact.
Certains théoriciens à l'époque disaient que c'était un loup-garou parce que il y avait certaines victimes qui portaient des blessures qui ne pouvaient pas avoir été faites par une bête.
Ben, c'est exactement ça. On ne peut pas s'empêcher de revenir un peu, Jason, sur ceci, sur cette histoire du Gévaudan, mm-hmm. parce que ça se ressemble un peu. En gros, en France, près de 1600 actes. On va reprendre un peu là, pour une courte durée, là, minutes, là, le sujet du Gévaudan. Ben, en fait, pas du Gévaudan, mais vraiment des loups mangeurs d'hommes.
Mm-hmm.
Donc, en France, il y a eu près de 1600 actes de décès concernant la période qui va de 1580 à 1840 qui ont été rassemblés, pour lesquels on disait que c'était des gens qui ont été tués par des loups. Donc, en gros, de 1580 à 1840, en France, on a répertorié environ 1600 décès dus par des loups.
Cause du décès, mangé par un loup.
Exactement.
C'était sur l'acte de décès, la personne a été attaquée, blessée ou tuée par un loup.
Exactement. Par contre, il y a des loups enragés, qu'on les appelle, des loups mangeurs d'hommes, qui, eux, s'attaquaient plus particulièrement aux hommes, aux femmes, aux enfants, plutôt que le bétail.
Mm-hmm.
Et ces loups-là, en fait, là, ce qui était vraiment étrange, c'est que on en a parlé pendant le Gif au temps, là, c'est qu'ils attaquaient leurs victimes, ils s'attaquaient la tête,
oui,
plutôt que la gorge.
Mm-hmm.
Et des fois, ils laissaient même la carcasse là. Donc, ouais, on parlait d'un comportement très, très violent, mm-hmm, et curieux. Là. C'est pas normal. Absolument.
Ben, il y a même des théories qui disaient que durant, et là, je parle la bête du Gévaudan parce que j'ai fait mes recherches là-dessus, qu'on disait, il y a même des théoriciens qui disaient, écoutez, il y avait des loups mangeurs d'hommes. On dit qu'il y en avait deux, peut-être même trois, qui étaient en action dans ce secteur-là et qu'il y avait peut-être un tueur en série en même temps dans le, ouais, même coin, parce qu'il y a certaines victimes qui étaient dévêtues. Et là, on disait, le loup ne peut pas avoir enlevé les vêtements de la personne. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, on disait qu'il y avait peut-être même un tueur au travers de ça, parce qu'il y avait des comportements humains sur certaines, oui, victimes. Et là, ça venait brouiller les cartes complètement. Et c'est la raison pour laquelle il y en a certains qui ont dit, ben, homme, loup, homme, loup, homme, loup, loup-garou. C'est un loup-garou.
Ben, c'est exactement ça. Puis j'en parle parce que, justement, grâce à cette histoire-là, cette tranche de l'histoire des loups mangeurs d'hommes, où à une certaine époque, c'était le pire ennemi des, mm-hmm, humains. Les fermiers, on avait peur des loups parce qu'on le savait que des fois, il y en avait un loup sur 10 qui était violent puis qui s'attaquait aux humains en premier et même qui laissait les carcasses là puis qui s'attaquait pas au bétail.
Ouais.
Et ce sont ces loups qu'on a caractérisés de garous.
Ah.
Ça vient de là, garous.
On parle pas de chanteur avec des oreilles ici. On parle de loup-garou.
Exactement. C'est la caractéristique du type particulier de loup qui s'attaque à l'homme. Alors, Gilles Garnier, un historien... C'est l'historien Julien Allot, plutôt.
Mm-hmm.
Julien Allot, qui est un historien, précise que le loup dévoreur est perçu tout d'abord comme un loup, puis son identité change. Il devient un loup que l'on qualifie de ravissant, de cruel. C'est un loup que l'on doit se garer. On doit s'en aller de ce loup-là.
Ah.
C'est le sens du nom de loup-garou.
Ah! C'est-à-dire, c'est un loup, pousse-toi.
Donc, les loups mangeurs d'hommes, les loups qui s'attaquaient à l'époque justement de 1580 à 1840, je rappelle que sur les 1600 décès attribués aux loups, il y en a environ 400 qui seraient attribués à des loups enragés. Sur les 1600 décès, et ces loups enragés, fallait vraiment s'écarter, s'éloigner de eux, et on les a désignés de qualificatifs de garous. Donc, on les appelait à l'époque les loups garous, les loups enragés.
Ben.
Donc, c'est de là que ça vient.
Le terme loup-garou, parce que la créature comme telle, on le dit, là, ça date de l'Antiquité.
C'est ça.
Mais le terme loup-garou viendrait de cette époque-là. C'est la désignation qu'on avait donnée à ces créatures qui n'étaient pas du tout des hommes transformés en loups, c'était des loups mangeurs d'hommes.
Donc, c'est ça, la définition originale.
Fait qu'on a fini par combiner les deux ensemble.
C'est exactement ça.
Hey, c'est intéressant, ça.
Donc, un loup-garou, en fait, on pourrait dire que c'est les loups mangeurs d'hommes à l'époque médiévale, à la fin de l'époque médiévale, où justement, là, c'était des loups.
Quasiment jusqu'à l'Antiquité. Pas l'Antiquité, mais je veux dire l'époque victorienne,
exactement.
Quasiment. Là.
Exactement. Ah, ben. Donc, ça vient de là, les loups-garous.
Le terme vient de là, mais à cette époque-là, quand on a donné ce terme-là, ça désignait pas un homme qui se transformait.
Non.
Exactement. C'était comme la bête du Gévaudan, entre autres, là, qui attaquait les hommes.
Exactement.
Les hommes, les femmes, les enfants. Ah ben!
Il y a plusieurs auteurs qui ont associé l'origine des légendes du vampire et du lycanthrope aux meurtres en série pour lesquels il faut trouver une explication à des époques peu rationnelles. Par exemple, un tueur en série comme Gilles Garnier est l'un des rares cas de lycanthropie répertorié comme tel dans les annales de la justice française.
C'est peut-être lui, mon histoire que je pensais, là, dans un village, ça se peut-tu? Il attaquait des gens, puis il se prenait pour un loup, c'est-tu?
Ben, c'est probable, le lien est intéressant.
Ouais.
Faudrait vérifier, mais ce qu'on peut retracer...
Parce que le nom me dit rien, fait que je vais écouter l'histoire qui entoure le fameux monsieur.
C'est qu'il y avait Gilles Garnier, lui, il y avait un cas de lycanthropie, donc là, selon la justice française, ce personnage, cet homme-là, se pensait un loup,
ouais,
dans sa tête, et c'est pour ça qu'il tuait des humains, okay, la nuit. Et il se réveillait le matin, bon, avec les symptômes, de comme un peu de. Il se rappelait plus de rien.
Oui, c'est ça, la confusion. C'est ça. Puis, bon, un blackout, là, perte de mémoire, amnésie temporaire ou très sélective.
Exactement, mais il n'était pas un loup-garou.
Il
ne
se transformait pas
c'est
en loup.
C'est ça. C'était vraiment un cas de lycanthropie. Donc, un homme qui pensait qu'il était un
il
loup.
Il pensait qu'il était, il devait tuer à
c'est
cause
ça.
De ça.
Donc, okay. Il y a plusieurs tueurs en série qu'on n'a jamais eu d'explication, que les auteurs, les spécialistes de la justice se sont dit peut-être que c'était un loup-garou, ou plutôt un lycanthrope.
Quelqu'un qui se croyait loup-garou et qui est capable de se transformer en loup. Il faut se remettre à l'époque, hein, la science médicale, mais surtout la psychologie, la psychiatrie, c'était pratiquement inexistant à cette époque-là. Et souvent, quand on n'avait pas d'explication, on se permettait de la fantaisie, on prenait ça pour des faits à l'époque.
Ben,
aussi,
c'est
là.
Ça.
On se permettait des fois de tordre un petit peu la réalité pour expliquer des choses qui étaient inexplicables.
Exactement. C'est fou comment le loup-garou a été utilisé dans tellement de
ça a
de
été la personne qui a reçu des accusations de tellement d'affaires ou que on mettait ça sur le dos des loups-garous pour tellement de choses parce qu'on savait pas sur le dos à qui d'autre le mettre, puis loup-garou c'était pratique, c'était comme la carte là sortie de prison, c'est comme hop là loup-garou, on sait pas ce qui est arrivé loup-garou.
Et peut-être avant de on prend une courte pause,
on va prendre une pause puis on va revenir. Alors on parle du loup-garou aujourd'hui, ça a été un sujet qui nous a été proposé souvent. Et on a un jeune fan là, qui est probablement très heureux de nous entendre parler du loup-garou aujourd'hui. Et Aziz, ben, c'est pour toi qu'on le fait. Ben, on l'avait déjà prévu, mais on est bien content de pouvoir le faire après que tu aies découvert la balado de Dossier Bizarre. Alors, on va aller à la pause et on revient tout de suite après. Tristan Brunet-Dubon qui nous parle des loups-garous.
Les Dossiers Bizarres est une présentation de...
Que ce soit votre fourche qui démange ou le tapis de votre salon qui sent le coyote... Vous avez besoin de
la poudre Gold Bound.
Mais saviez-vous qu'en plus,
la poudre Gold Bound
peut servir à une foule d'autres choses, dont laver votre pick-up, déboucher le drain du bain rempli de cheveux, décaper un meuble en bois, vous pouvez partir un feu, éteindre un feu, dissoudre un corps, épiler une belette, exterminer une invasion de fourmis, réglez votre problème de pellicule, changez l'odeur de vos vieilles bottines et guérir vos problèmes de transit intestinal.
La poudre Gold Bound.
La poudre pour votre fourche ou n'importe quoi d'autre.
Nous sommes de retour et nous parlons aujourd'hui des loups-garous. Alors, loups-garous, le terme que nous, on utilise et qu'on on associe à un homme qui se transforme en loup, à l'origine, ça voulait dire loup agressif ou loup sauvage qui attaque les hommes. Ça n'avait rien à voir du tout avec quelqu'un ou avec une créature le fantaisiste.
Exactement.
C'était vraiment des vraies de vraies créatures qui vivaient dans la forêt et qui avaient l'habitude de s'attaquer aux humains plutôt qu'au bétail.
Ben, c'est exactement ça. Ça vient vraiment du langage français, du pays de la France. Un salut à nos amis français qui
Allô?
Nous écoutent. Ça vient de chez vous, en fait, loup-garou.
Ben,
c'est à l'époque médiévale, fin de l'époque médiévale où quand il y avait un loup qui avait attaqué ou même tué quelqu'un de la famille ou un humain, on disait que c'était un loup-garou, pas en voulant dire un homme qui se transforme en loup, mais bien un loup méchant.
Un loup méchant, un loup, tassez-vous de là.
Et je rappelle que le lycanthrope, on l'appelle souvent comme ça, le loup-garou, le lycanthrope.
C'est une réelle maladie mentale.
Exactement. Et la maladie mentale peut s'expliquer pour différentes
raisons.
Oui,
parce que là, on en a eu. T'as un cas documenté, bon, à tort ou à raison, mais M. Garnier,
oui.
qui n'est pas du tout Garnier qui fait des produits de beauté, là, mais bien un monsieur de l'époque qui se prenait pour un loup-garou, qui croyait avoir la capacité de se transformer en loup. Et il a été condamné par la justice pour avoir commis des meurtres en série. Et on dit que c'est un cas réel de quelqu'un qui se croyait capable de se transformer en loup.
Exactement. Le premier, ce cas-là précis, c'est probablement expliqué par le domaine de la psychiatrie.
Mm-hmm.
Donc, on parle vraiment là, d'une maladie là, psychiatrique, là. Il y a des neurones qui se décollent à quelque part là, dans le cerveau.
C'est ça, puis c'est un comportement. Il y en a plein dans des maladies psychiatriques là, exotiques qui provoquent des comportements vraiment spéciaux. Il y en a plein. On ne les voit pas souvent, ces maladies-là, parce que c'est des maladies extrêmement rares.
Oui.
Mais ça en fait partie. Il y a la maladie, entre autres, là, puis je donne juste un exemple comme ça, mais le pica qui fait que les gens mangent tout ce qu'ils trouvent.
Ah ouais, okay.
Les gens mangent des sous. Souvent, ça va être ça, des sous. Les gens vont manger des sous. Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital avec des problèmes de santé graves. Et là, on passe à une radiographie. La personne a une poignée de change dans l'estomac, là, mais vraiment beaucoup. Et c'est une maladie mentale qu'on voit extrêmement rarement, mais qui existe et qu'on n'entend à peu près jamais parler parce que c'est très, très rare les gens qui souffrent de ça. Même chose pour quelqu'un qui se prend pour un loup-garou, c'est extrêmement rare. Alors, ça n'arrive pas souvent.
Ah, c'est fou, pareil, comme comment des fois le cerveau humain peut...
C'est complexe.
Oui, exactement. Tout ce qui est psychiatrie, je suis à zéro. Je ne connais absolument pas ça, mais...
C'est très intéressant comme sujet, c'est extrêmement complexe et on est loin d'être des experts dans le sujet.
L'une des théories de pourquoi on pense qu'on devient un loup, ça serait la rage.
Ah.
La rage, il n'y a pas beaucoup de témoignages, de récits qui parlent de la rage comme cause de transformation en
loup-garou. Quelqu'un qui aurait été mordu, mettons, par un raton laveur, qui a la rage, ça transmet à la personne et là, la personne se met à avoir des comportements dont... des comportements comme ça.
Exactement. Par exemple, là, je vous décris quelques témoignages qu'on a eu dans l'histoire. Un édit de l'archevêque d'York, daté de 766, dit que si un loup attaque un troupeau et qu'un animal ainsi attaqué par le loup meurt, il est interdit aux chrétiens d'en consommer la viande.
Parce qu'on savait que c'était dangereux.
Exactement. On pourrait se transformer en loup fou. On pourrait se transformer en lycanthrope, en quelqu'un qui
pense qu'il peut manger les autres.
Exactement, qui devient un peu carrément fou. Et petite parenthèse ici avec le Wendigo.
Oui.
Avec le Wendigo, où justement, quand on mangeait la chair d'un animal...
On devenait soudainement incapable de manger autre chose.
C'est ça, une folie intérieure là, qui nous donnait le goût
Mais
de manger.
Mais tu vois, moi, ce que je vois comme parallèle avec ce que tu viens de raconter, c'est plus... Mon enfance, quand on parlait des loups-garous, tu te fais mordre par un loup-garou, tu deviens un loup-garou.
Oui.
Tu te fais mordre par une créature qui a la rage, tu vas tomber malade et avoir envie de penser que tu vas te transformer en loup. Je trouve que le parallèle vient peut-être de là, parce qu'on a longtemps cru que la morsure pouvait amener des conséquences comme ça. Alors probablement que dans la culture populaire d'aujourd'hui, on se fait mordre par un loup-garou, on devient un loup-garou. Ça ressemble un peu à ça.
Ben, c'est exactement ça. Puis on dit ici que cette théorie-là, Jason, est toute récente, très, très récente. C'est vraiment, ça fait pas si longtemps, là, ça fait quelques dizaines d'années, là, c'est durant notre siècle, durant notre époque, qu'on a dit, c'est peut-être la rage, peut-être que le monde qui se font mordre par un loup, devienne complètement fou, puis pense que... Fait que c'est très récent comme théorie. Quoique, on a justement un rare témoignage de 766.
Oui, sauf que avant qu'on l'analyse pour dire que ça venait vraiment là, il y avait un lien de cause à effet entre la morsure et la transformation.
Mm-hmm. Exactement.
Ça a pris du temps avant qu'on fasse le lien.
Est-ce que tu connais la maladie, Jason? L'hyperthylichose.
Oui, mon cher. Il y avait des circambulants qui en présentaient de ça.
Ah ouais?
Est-ce que c'est bien ça? Genre, le garçon loup parce qu'il est poilu à la grandeur, incluant le visage.
Ben, c'est exactement ça.
L'hyperthylichose. Tu penses à m'avoir?
Ben écoute, oui.
Tu m'as pas eu.
quand j'ai lu ça tantôt sur le web, j'étais genre, ben voyons donc, c'est une blague, ça, l'hypertrichose?
Eh non, en fait, oui, c'est quelque chose. Hein, les cirques ambulants, à l'époque, c'était pas nécessairement des animaux, il y en avait, mais il y avait beaucoup de personnes avec des difformités, des jumeaux siamois, des femmes à barbe.
Ouais.
Et il y avait souvent, dans ces cirques-là, ce qu'ils appelaient le garçon-loup. Parce que le jeune homme était poilu, mais même le visage, et souvent avait le nez un peu trapu, ce qui donnait l'impression d'avoir un nez de chien.
Exactement.
Alors, on disait, c'est un garçon loup. Et ça donnait l'impression que le jeune homme ou la personne était un loup. Donc, c'était un loup-garou.
Exactement. Et c'est très, 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 très rare.
Absolument.
Mais encore aujourd'hui, en 2020, on peut avoir des cas d'hypertrichose.
Juste rapidement, une parenthèse comme ça. Si vous voulez en voir une personne réelle qui a cette maladie-là, il y a un épisode de X-Files. Je me souviens plus c'est lequel, mais ça l'histoire, le mystère, se déroule dans un cirque ambulant comme ça.
Okay.
Et il y en a un.
Ah ouais.
Il y a vraiment ce qu'on appelait des freaks. Le mot freak vient de là, des gens avec des difformités ou avec des maladies particulières comme ça. Et il y a un personnage, un comédien dans l'épisode qui a bel et bien cette maladie-là et qui est poilu à la grandeur, incluant le visage.
Ah,
et là, on parle pas de barbe, on parle en dessous des yeux, dans le front, le nez, partout. Là, la personne est poilue de la tête aux pieds comme un chien.
C'est exactement, on en apprend tous les jours. Hein.
Oui.
Tantôt, je tombais là-dessus sur le net, j'étais comme, ça m'a pris une couple de minutes pour que j'aille vraiment vérifier. J'étais comme, là, c'est une blague, ça, voyons donc.
Et non, il y en a là encore, probablement au moment où on se parle, il y a des gens qui souffrent de cette maladie-là, mais c'est, encore une fois, comme tu l'as dit, là, c'est extrêmement rare.
Exact. Et l'exposition, Jason, c'est que dans le passé, dans l'époque médiévale, Au bûcher!
Ah, ben là, c'est
bûcher.
Sûr que quelqu'un qui venait au monde avec cette maladie-là, avec cette condition-là, automatiquement, la personne devait être. Malheureusement, sa vie devait être très courte.
Non, c'est ça, c'est triste parce que c'était clairement pas de sa faute. Mais on est capable de faire la distinction, ben, voilà. Tu sais.
Ces personnes-là sont comme n'importe qui. C'est vraiment juste une condition qui fait que le développement pileux est extrêmement développé chez eux et ils se retrouvent poilus là, de la tête aux pieds, mais pas de retard mental, ont pas de difformité physique autre que le fait qu'ils sont extrêmement poilus.
Exactement. Si vous voulez aller voir des photos ou des vidéos, comme tu parlais dans X-Files,
oui.
C'est le fun qu'aujourd'hui, on soit capable justement de différencier maladies.
Oui, absolument.
Puis qu'on soit capable de les intégrer quand
la
même.
La science fait en sorte que maintenant, on comprend que quelque chose comme ça n'est qu'une condition médicale et que ça n'a rien d'autre là, comme impact sur la personne. Mais à l'époque, avant que la science soit développée, j'imagine qu'on était convaincu que
c'était
un loup qui avait enfanté l'enfant où il s'était passé quelque chose de pas très, très naturel là, pour se retrouver avec ça.
Non, c'est ça. Ça devait pas être la meilleure époque pour Neige.
J'imagine que non. Hein. Des fois, on dit « Ah, oh, j'aurais donc aimé ça vivre à cette époque-là. » Mais quand on y pense comme faux, je pense qu'on était peut-être mieux. On est bien avec notre Facebook et nos chaises confortables.
À chaque fois que je regarde Cœur vaillant, Jason, avec William Wallace, c'est bien, bien le fun, mais non, c'est beaucoup trop.
C'est très agréable à connaître, à explorer, puis même bon faire des fins de semaine. De temps en temps, tu parles de ça, là, des fins de semaine de grandeur nature, où on revit un peu, et je dirais un peu l'époque, mais c'est loin d'être ce que c'était. Là.
Non, exactement. Deux jours, moi, tu vois, après deux jours de GN, je suis tanné.
On sent pas bon, on a hâte de se laver. Eux autres, ils se lavaient pas.
Ah non, c'est ça, exact. On va poursuivre.
Je déraille un peu, mais bon, on continue parce que c'était à cette époque-là que c'était le pire pour ce genre de personnes-là, qui avaient des différences physiques apparentes, dont ce que tu as. Puis le nom de la maladie, honnêtement, là, je pourrais même pas le répéter. Je sais que ça existe, mais moi, j'appelle ça les garçons loups parce que c'est comme ça que je le voyais là, dans les cirques là, à l'époque. Là, je connaissais pas le nom de la maladie, mais quelqu'un qui est poilu de la tête aux pieds, ça existe bel et bien. Et encore en 2020, il y en a qui souffrent de cette condition.
C'était donc l'une des causes probables à l'époque de stigmatisation.
Ben absolument.
Pour ces gens qui avaient cette maladie. Je peux pas m'empêcher de passer par les drogues et hallucinations.
Oui.
Alors, c'est la dernière cause là, de l'explication du lysanthrope, de pourquoi on pense qu'on devient un loup. Eh bien, les drogues et hallucinogènes. Ouais. Par exemple, ils disent que c'était pas nécessairement volontaire.
OK. Il
y a les médecins autrefois qui prescrivaient de la belladone hallucinogène ou de la morelle noire. Ça, c'était au début du 20e siècle, contre les maux de tête et d'autres affections. Cependant, si elle est prise en trop grande quantité ou mélangée à un baume, cette drogue provoque des hallucinations. Au Moyen Âge, il y avait aussi le seigle qui servait à faire le pain. Il pouvait être infecté par l'ergot
de seigle.
Exactement, un champignon alcalin qui a des effets hallucinatoires comparables à ceux du LSD.
En fait, le LSD a été développé à partir de l'ergot du seigle.
Ah oui?
Oui. Monsieur Hoffman qui a fait des expériences pour synthétiser une des molécules de l'ergot et qui en a pris une minuscule quantité et qui a eu beaucoup de plaisir en faisant du vélo pour retourner chez lui. Il décrit son expérience en détail. C'est assez cocasse parce qu'il ne savait pas du tout l'impact que ça allait donner. Et finalement, il venait d'inventer le LSD. Il a été son premier cobaye à l'essayer absolument.
Au niveau scientifique, ça a été la preuve justement que c'est... Parce que j'imagine qu'à l'époque du Moyen-Âge, on ne comprenait pas trop.
Non, mais c'est ça. Puis en fait, là, c'est arrivé plus récemment aussi. Là, en France, il y a un petit village là, qui... tous les habitants du village se sont retrouvés avec des hallucinations, des maux physiques très graves aussi, parce que c'est un empoisonnement, là, grosso modo. Là, c'est ce que c'est. Et une des causes qui est avancée pour ça, c'est que le blé aurait été contaminé à l'ergot. Il y a d'autres théories plus farfelues qui disent que les États-Unis avaient essayé de certains produits là, sur les habitants du village, mais la cause la plus probable, c'est qu'ils avaient été contaminés par l'ergot.
Ah, c'est fou, à l'époque médiévale, dans le fond, les gens se passaient des loups parce qu'ils avaient mangé des champignons.
Ben oui, ben pourquoi pas?
Fallait que je ne peux pas écarter cette théorie parce que c'est probable qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des problèmes d'hallucinations graves, que ça peut mener peut-être à un problème de lysanthropie. Là. Ça pourrait, je dis bien.
Ben arriver. Oui. C'est spécial, pareil.
On arrive à mon bout préféré.
Mon bout préféré.
J'avais hâte.
Ben oui.
Les Berserkers.
Ah, ben oui.
Ah, que moi, j'étais avec la série Viking, j'étais un fan fini.
Ben oui. Ben moi, j'ai pas vu la série Viking, mais j'ai vu des documentaires. À un moment donné, je suis regardé un documentaire sur les guerriers époque.
Ah, okay,
bon, il y avait peut-être à l'époque romaine où les Spartiates, les Sparta, là, les 300 là, guerriers ultimes qui ont repoussé des milliers de guerriers ennemis. Et c'était par époque comme ça. Et à un moment donné, je savais les Berserkers, que c'est un terme qui existe, mais moi, je le connaissais pour les jeux vidéo.
Okay,
même dans le premier Doom, le tout premier jeu Doom, qui regarde, les plus vieux vont savoir de quoi je parle, à un moment donné, on peut tomber en mode Berserker ou Berserk. On tire partout, on est fort, puis il n'y a plus rien qui nous fait mal. Moi, c'est de là que je le traitais. Moi, je pensais que ça avait été un terme pratiquement inventé pour les jeux vidéo, qui donnait une surpuissance pendant un certain temps. On avait un bonus qui nous rendait invincible, mais ça date de l'époque des Vikings.
Exactement.
Fait qu'on monte à loin, je pense pas qu'il y avait des PlayStation dans ce temps-là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, les Berserkers, Jason, là, ça a inspiré plein de jeux vidéo. Puis, dans le Transformers, il y a un Transformers qui s'appelle The Berserker. Ouais. C'est un Decepticon extrêmement violent puis méchant. Mais les Berserkers, je trouve ça passionnant parce que je suis un fan de tout ce qui est l'art du combat. J'avoue, tout ce qui est les guerriers. Moi, je suis bien épique. Là. J'adore tout ce qui est épique, comme les Spartiates. Les Berserkers, ça fait partie des guerriers les plus épiques de l'histoire de l'humanité.
C'est complètement fou, là. Bon, justement, là, j'ai le peu d'informations que j'ai vient d'un documentaire qui parlait spécifiquement des Vikings et des Berserkers, parce que c'était comme le top des guerriers par civilisation. Okay. Et c'était le top des Vikings, là. Eux autres, ils les envoyaient au front, là, puis c'était comme, allez faire le ménage, nous autres, on va y aller après, parce que c'était les plus forts, les plus courageux, les plus fous de la gang.
Ben, c'est carrément ça. Fallait être fou pour devenir Berserker.
Ouais.
Parce que c'est comme si un peu comme les Spartiates. Mourir sur le combat, c'était un honneur.
Donc, oui, mais
ils
n'avaient
pas peur de la mort.
Non.
Contrairement aux autres.
C'était même souhaitable de mourir sur le champ de bataille que tomber en bas d'une falaise parce que j'ai fait un faux pas. Eux autres, il fallait qu'ils meurent en combattant.
Exactement. Et on en parle aujourd'hui parce qu'on parle des loups-garous.
Ben, c'est ça, quel lien avec les loups-garous?
C'est à l'époque, on parle vraiment d'une époque, l'époque des Vikings.
L'imaginaire était aussi réel que la réalité pour ces gens-là.
Non, c'est exactement ça. C'est l'allure, en gros. Et les Berserkers, là, quand ils chargeaient, ils criaient comme des bêtes et des loups. Mais vraiment, là, comme... ou comme des loups. Puis il y avait aussi des fourrures impressionnantes sur leur dos. Ce qui pouvait donner l'allure d'un loup-garou, carrément. Il y a même probablement que dans l'imaginaire, dans le folklore viking, là, si tu voyais un berserker te foncer dessus là, avec le maquillage noir, les yeux de fou et tout, puis le cri du loup, puis les fourrures, c'est-tu un loup-garou, c'est-tu un humain, ça devait être...
Ça fait peur.
C'est
mon cerveau va dire « va-t'en ».
Exactement.
On s'en fout, c'est-tu un homme, c'est-tu un loup, c'est-tu une bête, pense pas. Fait juste t'en aller.
C'est ça. D'après les récits vikings, Jason, les gens avaient raison de s'en aller parce que les Berserkers allaient au combat sans cotte de maille, pas de protection métallique, enragés comme des chiens ou des loups. Ça, on le lit dans un récit viking, en mordant leurs boucliers, forts comme des ours ou des taureaux. Ils entraient dans cette fureur guerrière appelée, la prononciation que je vais complètement pas avoir, là, on appelait ça en viking la fureur guerrière Barenhaftigek.
Hop, boy.
Et lors de ce
combat... Désolé s'il y a des vikings qui nous écoutent.
Ouais, désolé, j'ai carrément pas la bonne prononciation. Mais lors de ce combat, il s'agissait d'une frénésie sacrée. Leur extase pouvait être due à une consommation possible de psychotropes ou des rituels chamaniques. Là, c'est là qu'on parlait tantôt de...
Ils rentraient en transe mélangée probablement avec des substances un peu étranges.
Exactement, des substances qui faisaient en sorte qu'ils ne ressentaient pas la douleur.
C'est ça qui fait peur un peu, hein, parce qu'il n'y avait rien pour les arrêter, étaient blessés mortellement, mais continuaient de charger pareil jusqu'à leur dernier souffle.
Exactement.
Et il n'y avait rien pour les... Alors, c'était extrêmement... On parle souvent maintenant de nos jours de la guerre psychologique, hein, de faire peur à l'ennemi pour essayer de gagner un avantage, d'arriver avec même si notre armée est moins nombreuse, arriver avec un spectacle de force tellement impressionnant qu'on va gagner un avantage même si l'ennemi est plus nombreux. On parle souvent de ça sur le champ de bataille aujourd'hui. Là, les armées essaient de se gonfler le torse avant même d'aller au combat pour essayer de faire peur à l'ennemi pour gagner un avantage. Mais à cette époque-là, c'était exactement ça. Oui. Parce que techniquement, les berserkers ou les vikings dans cet état-là étaient tellement peu nombreux souvent face à leur ennemi que techniquement, ils auraient dû se faire planter solide. Et ils gagnaient quand même parce qu'ils faisaient tellement peur à leur ennemi. Et justement, on avait tellement l'impression qu'il y avait des bêtes sauvages, des mi-hommes, mi-bêtes. Ils étaient croisés avec une bébite et il y avait pas mal. Ça faisait tellement peur aux gens que souvent, ils abandonnaient leur village carrément avant même qu'il y ait un combat, juste par l'arrivée de ces fous là, qui étaient complètement déconnectés, là. Ils étaient décollés, là, ces personnes-là. Mais ils gagnaient un avantage certain, même en nombre inférieur, grâce à la peur qu'ils donnaient à leur ennemi, grâce à ça. Mais je savais pas qu'on avait fait un lien avec les bêtes comme telles, avec les loups-garous. C'était des hommes-loups qui venaient nous attaquer et qu'on pouvait rien contre eux. Et quand on est convaincu qu'on peut rien contre l'ennemi, ben on quitte, on abandonne tout simplement.
Ben, c'est exactement ça. Puis tu sais, à l'époque, je te recommande, Jason, je vous recommande, cher auditeur et auditrice, le film Le 13e guerrier.
Ah!
Le 13e guerrier, là, moi, c'est un de mes films préférés. C'est justement à l'époque des Vikings. C'est quand même un vieux film, mais ça explique justement les Vikings qui se font attaquer par des guerriers d'élite costumés avec des griffes, de la fourrure. Puis les Vikings de l'époque pensaient que c'était vraiment des créatures.
Aha.
Jusqu'à ce qu'en les combattant puis tout ça, ils enlèvent le masque, le chapeau, puis ils se rendent compte que c'était des humains qui étaient justement un peu fous. Donc les Berserkers, c'est un film qui décrit un peu là, dans l'imaginaire des Vikings comment on percevait les Berserkers à l'époque. Le 13e guerrier, dans le 13e guerrier, c'est exactement ça. Quand les Berserkers attaquent, on entend des cris de créatures et tout. Puis c'est très crédible. Dans le film, on se rend compte que si j'avais été là, moi, à l'époque, là, tu sais, avec où.
T'aurais pas pris le temps de voir, hein? Non, hein?
J'aurais probablement pensé que c'est des loups-garous, des créatures mi-hommes, mi-bêtes.
Ben, surtout qu'à cette époque-là, on y croyait, là. On pensait que ça existait pour vrai. Alors, déjà là, aujourd'hui, quelqu'un arrive déguisé en loup sur mon terrain, je vais sortir dehors avec le balai, puis je vais y en donner 3-4 coups. Ben, je vais dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là, déguisé en loup, toi? Mais à cette époque-là, si on voyait quelqu'un qui ressemblait à un loup, mais qui se tenait sur deux pattes, qui avait une forme humaine mêlée avec celle d'un loup, on y croyait. Pour eux, ça existait, ces créatures-là.
Exactement.
Réellement. Alors, quand on en voyait un arriver, on se posait pas la question. Il y avait un loup-garou qui s'en venait m'attaquer. Je suis mieux de m'en aller. C'était la conclusion la plus logique et la plus normale aussi.
Ah, c'est exactement ça. Quand on combattait les Berserkers, je suis pas mal sûr qu'on on les décrit comme des Berserkers aujourd'hui et tout dans l'histoire. Mais à l'époque, en tant que viking, que tu prends une épée pour défendre ton village, puis tu vois ces hommes qui te foncent dessus avec...
Je serais pas gros dans mes shorts.
Non. Je pense que moi, avec, j'aurais pensé que c'est des créatures, tu sais, des monstres.
Ça doit être extrêmement impressionnant. Déjà qu'on a le risque de se faire blesser ou même de se faire tuer parce qu'il y a un combat qui se prépare, si en plus on rajoute cet élément-là. Mais c'était brillant parce que c'est carrément de la guerre psychologique, comme on fait encore aujourd'hui.
Exactement. Dans la série Viking, c'est un peu ça l'image qu'on donne dans un épisode du Berserker, c'est qu'il y a des riches, des nobles qui engageaient les plus grands et les plus forts vikings pour les transformer en Berserker. Donc là, ils les déguisaient, ils leur donnaient des psychotropes, puis ça devenait un peu comme des bêtes, dans le sens qu'ils étaient un peu...
C'était une classe de guerriers à part. C'est un peu comme, on a aujourd'hui dans les forces de la terre, les forces navales, les forces aériennes, on a des classes comme ça, on a des classes d'élite, Ben, c'était ça aussi. C'était les élites des Vikings, même si c'était des fous, c'est eux qui étaient les plus grands guerriers de leur peuple.
C'était les Marines.
Exactement, c'est ça.
Il nous reste 3 points.
Oui, vas-y.
On va y aller avec la Lune.
La Lune, la pleine Lune.
Rôle de la Lune.
Ben oui, c'est juste à la pleine Lune qu'on se transforme en loup-garou. Moi, dans mes histoires, c'était ça.
Ben, c'est très populaire de nos jours, cette idée-là. Mais à l'époque, premièrement, dans l'époque, au tout début, la civilisation grecque, on ne parlait pas vraiment de ça.
Il n'y avait pas d'impact avec la
Lune. Non, pas vraiment. C'est vraiment plus tard. Par exemple, je vous décris un peu là, les endroits, les moments dans l'histoire où on parlait de la Lune. Il y a Gervais de Tilbury, qui est l'un des premiers à noter, entre 1210 et 1214, qu'en Angleterre, il est fréquent de voir des hommes se changer en loups lorsque la Lune entame un nouveau cycle. Donc ça, c'est un des récits.
OK.
Dans les
récits. On parle de quelle époque?
Entre 1210 et 1214 en Angleterre.
OK, c'est quand même assez longtemps.
Exact. Donc on a ça, c'est le premier endroit, en fait, qu'on a parlé de la Lune et des loups. Le lien entre la Lune et les loups. Sinon, après, il faut monter à 1848. Il est dit que lorsque la Lune est rousse, donc on parle d'une éclipse lunaire, dans ce cas-ci, on assiste à des épidémies de lysanthropie.
Ah!
Donc,
ça, c'est encore plus rare. Là.
Oui, exactement. Des éclipses lunaires, on voit que la Lune, je ne sais pas si tu en as déjà vu.
Oui, absolument. La Lune qui rougit, là, Lune rouge sang.
Donc là, les gens deviennent fous et deviennent dans leur tête des loups-garous. Donc là, il y aurait plein de lycanthropie, de lycanthropes. Ben. Sinon, en France, en Italie, en Allemagne, l'homme peut se transformer en loup s'il dort seul dehors par une nuit d'été, certains mercredis ou vendredis, et si la pleine lune brille directement sur son visage.
Foudon, c'est donc bien compliqué. Donc, ce qu'on comprend, s'il a rempli le formulaire A-22, puis
non, là,
il peut se transformer en loup, il a le droit.
Donc la lune, là, c'est pas un facteur entrant en ligne de compte, en gros. C'est très populaire. Ça vient de notre époque.
Ben oui, puis la lune, hein, là, on parle des loups-garous, mais on parle souvent... c'est la pleine lune, là, le monde est fou, là. Ouais, ah, l'hôpital, ça doit être plein à l'urgence, là, c'est la pleine lune. Ah, la police doit être occupée. C'est souvent, on entend ça encore de nos jours. Oui. C'est très, très, très ancré. Même temps, maintenant, là, c'est sur les médias sociaux. Souvent, oui. Là, sur les médias sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, les gens vont dire « Coudon, le monde est donc bien chialeux, à soir, c'est-tu la pleine lune? »
Oui.
C'est une expression qu'on utilise fréquemment. Et moi-même, des fois, je vais le dire « Coudon, pour moi, c'est la pleine lune, me semble. La petite est donc bien étonnante, ça doit être la pleine lune.
Ben, »
On utilise encore ça, mais c'est de manière très douce, mais le lien de ça, souvent, ça va avec les loups-garous, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai appris quand j'étais jeune. Mm-hmm. La pleine lune, c'est là que les loups-garous sont.
Exactement, moi aussi, tu sais, comme on le voit dans les films, dans Harry Potter 3, puis tout ça, les loups, les humains se transforment en loups-garous, seulement à la pleine lune.
Ah, c'est juste là.
On se rend compte que c'est vraiment ancré dans notre culture populaire, dans notre culture à nous, notre culture à nous. C'est nous, notre époque, qu'on a décidé d'implanter ça dans l'histoire, la légende du loup-garou.
Eh bien.
Avant, à l'époque de l'Antiquité, Moyen-Âge, pas tant. On
ne
parlait pas tant de ça. Et...
Il y en a peut-être encore des traces dans le passé, justement, où on fait un certain lien avec la Lune et ça l'a fini par revenir au goût du jour avec notre époque à nous. Mais à la base, le loup-garou n'avait rien à voir avec la Lune.
Exactement. Et si
on peut entendre les loups hurler à la Lune aussi. Ouais. Souvent, on va dire ça quand on entend, on est en forêt, par exemple, pour les gens qui font du vrai, de vrai camping sauvage, pas du camping de roulotte, mais qu'on dort là, vraiment dans la nature. Des fois, on va entendre un loup.
Oui.
Oh, un loup qui hurle à la lune. Il y a ça aussi, là, souvent, on associe les deux. C'est comme ancré. Les deux vont ensemble.
Exactement. Non, c'est vrai. Puis j'avais vu un documentaire, Jason, sur les doormen.
Qui parlait de la pleine lune, c'était différent pour eux. Puis,
exact.
Qu'est-ce qu'il disait?
Il disait que oui. Il y a des doormen qui ont 30 ans d'expérience dans le métier qui disaient que, ben oui, c'était évident.
Les soirs de pleine lune, c'était pire.
Il y a bien plus de batailles dans les bars. Les soirs de pleine lune, ça, c'est pas scientifique, mais c'est de l'expérience.
Ben, c'est ça. Quelqu'un qui ça fait 30 ans qui travaille soir après soir après soir remarque certaines choses.
C'est ça.
Il y a des policiers aussi, je pense, que des fois se permettent de dire « des fois, le soir de pleine lune, ça bouge un petit peu plus. »
Ben, ça a peut-être la raison de ça. Peut-être qu'il y en a une scientifique.
Ben, il y a des champs d'attraction très forts quand que la lune est pleine. On dit que les marées sont plus fortes. On dit que l'attraction de la lune, la force de la lune sur la Terre est différente. Il y a peut-être de quoi vraiment qui fait que physiquement, mentalement, on est un peu affecté.
Exactement. Il y aurait une recherche à faire. Il y a probablement des scientifiques qui travaillent
là-dessus. J'imagine, oui, qu'il y a quelque chose.
Il y aurait une enquête.
Sûrement qu'on pourrait faire un épisode là-dessus.
Exactement. Les impacts que la Lune a sur l'humanité.
Absolument.
Alors oui, on va y aller maintenant avec les points communs avec les vampires.
Oui.
Il y en a quelques-uns. Les Grecs, par exemple, estimaient que les cadavres de loups-garous non détruits revenait à la vie en tant que vampire.
Oui, et ça, on a beaucoup mêlé les deux ensemble, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à faire, puis à un moment donné, je vais le présenter, mais à peu près le même travail que tu fais là, mais avec les vampires.
Ah oui!
Retrouver l'origine des vampires, puis bon, qui a commencé à en parler, puis comment le vampire est devenu le fameux vampire sexy qui séduit tout le monde, alors qu'à l'origine, c'était une bébitelette qui... Et souvent, c'était ça. C'était soit quelqu'un qui était un loup-garou, qui était... que le cadavre n'avait pas été détruit, ou qu'il y avait, bon, ça pouvait être certaines maladies, on parle même de la tuberculose, là, il n'y a pas si longtemps. Là, une maladie qui a tué énormément de gens. Ça a été une pandémie, ça aussi. Hein, la tuberculose, là, ça a tué énormément de gens. Et on disait que les gens qui mouraient de la tuberculose pouvaient revenir à la vie et contaminer d'autres personnes. C'est un peu du vampirisme aussi. Les loups-garous, oui, en faisaient partie. Donc, pas chanceux. Hein, son vivant, il est un loup-garou. Mort, il devient un vampire. Ça va pas bien?
Non, c'est ça. Il y avait plein de liens comme ça. Incroyable. J'en ai un autre ici. Dans la mythologie hongroise et celle des Balkans, de nombreux loups-garous étaient décrits comme des sorcières vampiriques qui devenaient loups afin de sucer le sang des hommes nés un jour de pleine lune.
Ah ben, ça aussi c'est compliqué.
Donc là, on voit qu'il y a toutes sortes de liens là, dans
le... Avant d'attaquer quelqu'un, voilà, qui demande sa date, sa journée de naissance, à quelle année, quelle heure, puis savoir s'il était né. Ah non, c'était pas en pleine nuit. Ah, coudonc, on viendra.
Pour vrai, je vais le répéter juste parce que je me suis perdu moi-même en lisant Jason.
Excuse-moi de la bureaucratie rendue.
OK, toi, t'es une sorcière vampirique qui est devenue loup-garou. Et là, okay. Tu veux sucer le sang des hommes qui sont nés le jour de pleine lune parce que ça, c'est pour préserver ta santé.
Ah, OK. C'est compliqué, pas mal.
Ah, c'est compliqué. Ça, c'est, je le rappelle, c'est dans la mythologie hongroise. Okay. Celle des Balkans.
Donc. Il y avait une base de données secrète avec tous les hommes nés un jour de pleine lune, avec les adresses et...
ouais, exact. Et avant de finir avec le folklore québécois, j'ai dit, une autre dernière phrase pour tout vous mélanger entre le lien et le roux et les vampires. Pour vrai, je ne sais même pas comment. Je suis pas sûr de la comprendre, moi.
OK, vas-y, on va essayer de décortiquer.
Les lycanthropes sont très proches des vampires dans le sens... où le loup-garou est un pont entre l'homme et l'animal.
OK.
Un animal bestial qui détruit et dévore le monde.
OK.
Le vampire est un pont entre le monde des vivants et celui des morts.
Ah, ben c'est plus une vision philosophique de la chose. Hein? Parce que un des points, moi, avec les vampires, pas les vampires, mais plutôt les loups-garous, un autre point de vue que j'ai croisé là, au fil des années, puis bon, je me suis toujours intéressé un peu à ce genre de sujet-là, même quand j'étais plus jeune, c'était un peu pour... Tu sais, on a eu le bonhomme 7 heures, nous autres, hein, au Québec, là, le bone setter qui est devenu le bonhomme 7 heures. On a eu chaque civilisation ou chaque société a eu son méchant.
Oui.
Son méchant qui était... le bonhomme 7 heures, c'est devenu... Bon, souvent, ça, c'est parti, puis ça, je ne ferais pas... On préfère une émission complète, là, mais c'était le ramancheur du village. En anglais, on appelait ça le bone setter. Et le bone setter est devenu le bonhomme 7 heures. Souvent, il faisait peur, lui. Okay, parce qu'il rentrait dans les maisons, puis on disait « Les enfants, allez dans la chambre, là! Papa, il a mal! » Puis là, il couchait le bonhomme sur la table, puis là, il pliait dans tous les sens. « Bah, bah, bah. » Le bonhomme criait, les enfants, « Oh, mon Dieu, il fait mal à papa! » Ça faisait peur.
Ah, oui,
fait que, pour faire peur aux enfants, pour dire « Écoutez, restez pas dehors, sauvez-vous pas, allez pas trop loin de la maison, sinon le bon de 7 heures va vous poigner. » Puis là, c'est devenu le bonhomme 7 heures.
Okay.
Qui là, lui, sortait après 7 heures. Ah, puis il venait pogner les enfants qui étaient encore dehors. Il y a eu plein d'histoires comme
c'est
ça.
Fou, ça.
Le loup-garou a servi ce rôle-là aussi à un certain moment donné. Un homme méchant qui faisait mal aux enfants, qui abusait les enfants, qui n'était pas fin, souvent, on le voyait comme le loup-garou de la place. C'était le méchant. Oui. Lui, il est dangereux. Lui, il peut tuer du monde. Lui, il peut faire mal. Il peut kidnapper des enfants. Il peut...
Exact.
Et il n'était pas fin. Et au lieu, parce qu'on avait de la misère à voir un homme capable d'avoir ces comportements-là, souvent... On embellissait ou on enlaidissait l'histoire et on le transformait en bête sauvage.
Excellent.
Et il y a certaines sociétés ou certaines époques où le loup-garou jouait ce rôle-là.
Oui.
Jouait le rôle de « Va pas dans la forêt, le loup-garou va te pogner.
Ben, »
Puis on faisait peur aux enfants pour essayer de les garder proches puis éviter qu'ils se perdent dans la forêt ou qu'ils se fassent attaquer par une bête sauvage, justement, ou qu'ils tombent dans la rivière, ou on leur faisait peur avec le loup-garou qui est dans la forêt.
C'est ça. Puis là, je fais toutes sortes de liens. Jason, tu me parles de ça, c'était un excellent point. Par le Wendigo dans les communautés autochtones.
Oui, ben voilà.
C'était pour éviter, pour faire peur aux jeunes, pour pas qu'ils s'éloignent trop du village. Les sorcières, à l'époque médiévale, on le sait que c'était probablement des femmes qui étaient bien normales, mais qui faisaient, je sais pas moi, des...
Qui étaient capables de faire des remèdes, des plantes. Ouais. De toute façon, les sorcières, éventuellement, ça va être un sujet là, à explorer, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais oui, c'était des femmes bien ordinaires, qui étaient peut-être un peu étranges, mais qui avaient des connaissances en herboristerie, qui étaient capables de faire des médicaments avec les plantes qu'il y avait dans la forêt et tout ça. Et souvent, ces femmes-là, hein, on s'en servait parce que c'était pratique d'avoir quelqu'un qui avait ces connaissances-là. Mais dès qu'il y avait une saison, mettons, de culture qui n'était pas bonne, ben c'était de sa faute à elle, parce qu'elle faisait de la magie avec les plantes.
Exactement.
Alors souvent, on utilisait ces images-là pour faire peur aux gens, où on s'en servait justement pour créer un certain... influencer les comportements des gens ou contrôler un peu comment les gens se comportaient.
Exact. Avec le fait qu'on croyait à ça à l'époque, il y a beaucoup de monde qui croyait à ça, puis il y a peut-être du monde manipulateur qui s'en servait.
Absolument.
Tu parlais j'imagine un gars à l'époque médiévale en 1183 qui était un peu sous l'eau, qui se ramassait, qui dormait un peu dans les rues de boîte, puis que le jour il avait l'air un peu tout croche, puis
oui.
Un moment donné il se battait dans un bar le soir, Mais la nuit, quand il était pas là, puis s'il y a un meurtre le lendemain,
ben, c'est ça.
Les qui qu'on va accuser le premier, on va dire que c'est lui, puis c'est lui qui se transforme en loup-garou.
On va pas du noble, on va parler du monsieur qui dort en dessous des ponts, puis qui a des comportements des fois un peu dérangeants.
C'est ça, puis on pourrait même dire que c'est un loup-garou.
Ben voilà.
À l'époque.
La nuit, il se transforme en loup.
Exactement.
Mais oui, c'est souvent des créatures un peu passe-partout, hein. Ils ont servi à des choses durant les époques, ils ont eu leur utilité.
Exact.
Et c'est quand même curieux parce que bon, tu parlais des Vikings, ça remonte à loin et là c'est une utilité complètement autre. Là c'est plus des histoires de peur, c'est plus pour essayer de faire peur aux enfants, c'est plus pour expliquer parce que bon, souvent on n'est pas capable d'expliquer quelque chose à cette époque-là dans les à l'époque médiévale puis même un peu avant l'époque victorienne. Souvent la science réussissait pas à expliquer des choses.
Ça.
On trouvait des gens à blâmer ou des choses à blâmer qui étaient complètement fantaisistes, les vampires, les loups-garous, les fantômes. Mais ils ont eu leur utilité. Aujourd'hui, c'est le divertissement.
Oui, c'est
carrément le divertissement, comme les zombies, comme n'importe quelle créature comme ça, servent à nous divertir. Mais leur utilité a été autre au travers des âges, puis là, on remonte à loin. Là.
Exactement. Puis ça, c'est tout. On pourrait classer ces créatures-là dans un dossier à part que, par exemple, le Bigfoot ou l'abominable homme des neiges. Les créatures comme le Wendigo, le loup-garou, les sorcières, le fantôme, ça existe depuis toujours.
En fait, oui, absolument.
Toujours. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, on a comme, ben, presque, là, dépendamment, il y a quelques différences selon chaque créature, là, mais ça date de pratiquement des milliers d'années pour chacune d'elles. Là, ça nous a marqué.
Je pense qu'on a toujours aimé ça, se faire peur.
Ouais.
Je pense que ça fait partie de l'humain, ça fait partie de nous, de se raconter des histoires. C'est ça qu'on fait, nous, ici. Là, quand on fait ça, on raconte des histoires qui, bon, des fois peuvent être vraies, des fois peuvent être fausses, des fois, les infos qu'on a vont différer d'une autre source ailleurs. Mais on aime ça, raconter des histoires, puis c'est des histoires qui pique la curiosité, puis qu'en même temps, ça peut laisser un petit malaise. Ça peut dire, mais si c'était vrai.
Exact.
Mettons que. Et ça laisse tout le temps comme un petit. Puis là, ça nous amène des fois ailleurs, mais je pense qu'on a toujours aimé ça, se raconter des histoires.
Oui.
Depuis qu'on est capable d'imaginer des choses, je pense qu'on l'a toujours fait. Et ces créatures-là sont venues de ça éventuellement aussi. Et comme je disais, ils ont eu leur utilité. La mythologie, souvent, c'est parce que c'était pour éviter que les gens quittent la ville. On voulait pas qu'il aille dans la forêt n'importe comment. Il y avait juste le chasseur qui avait le droit d'aller dans la forêt. Lui, il avait le droit, il connaissait ça, là, puis il connaissait les rites des bêtes, puis des créatures étranges, puis il était capable de ramener de la viande, puis ramener des peaux. Lui, il avait le droit parce qu'il avait ce don-là. Mais toi, comme jeune homme de la ville, fallait pas que t'ailles là, parce que là, t'allais te faire pogner par le chien à trois têtes, par la méduse, il y avait tout le temps quelque chose qui était dangereux, parce qu'on voulait garder les gens proches. C'était pour leur sécurité, dans le fond, là, qu'on faisait ça. Mais il y a eu des utilités à ces créatures-là. Fait que c'est des histoires le fun à raconter, mais il faut penser que ces histoires-là ont été crues pendant longtemps.
Ben, c'est ça, exact. Il y en a tellement. T'sais, quand on pense, on a parlé du Kraken, du Triangle des Bermudes, c'est dans Dossier Bizarre, pour vrai, là, on commence
à voir. Encore un répertoire pas pire.
Le lien que tu fais là, il est excellent parce que c'est un gros résumé, en gros, qu'on se rend compte que les humains, on aime ça. C'est
exactement on aime ça.
Se faire des peurs.
Faut qu'on écoute des films d'horreur.
Puis même, moi, j'aime toujours me garder une petite gêne. T'sais, par exemple, le monstre du Loch Ness, là, ben, peut-être que le Loch Ness, peut-être que en gros, tu es des créatures marines dans le fin fond de l'océan.
Il y en a qu'on n'a pas découvert.
Ben, c'est ça, exactement. Puis le loup-garou, bon, ça, on va se le dire, c'est beaucoup plus folklore.
C'est très folklorique. C'est très imaginaire et on le sait. Puis bon, en faisant cette émission-là, je veux dire, on n'essaie pas de convaincre personne qu'il y a peut-être une chance que les loups-garous existent. Au contraire, mais ça reste très intéressant. Et l'impact des loups-garous, on l'a dit tout à l'heure, là, il y a des jeux extrêmement populaires qui mettent en scène un monde souvent médiéval, plutôt fantaisiste, où on utilise énormément le loup-garou. Il y a Skyrim, entre autres, qui est un jeu qui a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Et on a une partie du jeu où on peut être un loup-garou, où on doit faire des missions de loup-garou, où on a le talent de se transformer en loup. Et ça fait partie intégrante du jeu. Et c'est une des plus fun du jeu, d'ailleurs. Et c'est un jeu parmi tant d'autres où on ramène le loup-garou et qui fait figure centrale là, dans l'histoire. Là.
Et
ça reste très, très, très populaire. On a parlé de Twilight tout à l'heure, la guerre légendaire entre les loups-garous et les vampires, qui sont deux créatures proches. C'est ça aussi, là, ça a été un film et des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Ça reste populaire,
oui.
Puis on aime ça.
Exactement. Moi, mon, parlant de culture populaire, là, mon préféré là, de loup-garou, c'est celui dans Harry Potter 3. Mais tu sais, celui-là... Là,
fait un petit peu peur, hein? Il est très impressionnant.
Il fait très, très peur. J'ai 27 ans aujourd'hui, puis j'ai encore peur. Quand je regarde les Harry Potter, tu sais, j'adore ça, les Harry Potter, mais le 3, je monte le volume, je ferme la lumière. T'sais.
Ah ben oui.
Parce que je... Parce qu'il me fait peur, ce loup-garou-là. Il m'énerve. C'est pour vrai, j'ai peur dans le bois. Si tu me ramasses dans le bois, au Québec, le soir, la nuit, tout seul, puis que j'entends un drôle de bruit, des fois, l'image du loup-garou...
C'est l'image du loup-garou. Eh ben oui, ben, on a tous une référence quelque part avec les loups-garous comme ça ou avec n'importe quelle créature. Mais ça reste des créatures qui... continue d'être utile. Bon, oui. Dans Harry Potter, elle nous sert à nous divertir. Dans les jeux vidéo, ça sert à nous divertir. Dans les livres, elle a encore son utilité aujourd'hui. Puis c'est le fun de voir que ce qu'on pense être... puis c'est tout le temps comme un peu... je sais pas, c'est comme si ça avait toujours été là, mais en même temps, on se pose pas trop la question quand on envoie des créatures comme ça dans des films ou dans peu importe la forme de divertissement, de savoir un peu que, écoute, là, ça date pas de v'là 100 ans, ça date pas de v'là 200 ans, ça date de v'là 2, 3, 4 000 ans à ces créatures-là, et ça a comme toujours ou presque toujours été là. Et aujourd'hui, en 2020, on allume le téléviseur, on s'en va au cinéma, et on les voit encore, ces créatures-là, comme si c'était ultra moderne, alors que ça existe depuis toujours, là, des temps immémoriaux.
Exactement, hein, c'est fou de penser que ça fait justement depuis l'époque de l'Antiquité là, qu'on a inventé ces créatures. Là, le loup-garou, c'est fou.
Alors, le loup-garou.
Écoute, Jason, pour finir,
ben oui.
Pour finir, on est au Québec.
Ben oui.
On en a parlé dans le folklore québécois du loup-garou aussi. Pour finir, là, il y a un conte québécois rapporté par... Honoré Beaugrand.
Honoré Beaugrand.
Qui mentionne la rencontre entre des navigateurs et un groupe de loups-garous près de Trois-Rivières.
Aha.
Le jour de la Toussaint.
Ah ben.
Les marins aperçurent une vingtaine de possédés aux yeux brillants, comme des tisons, avec des têtes et des queues de loups, qui dansaient autour d'un feu au milieu de sapins en découpant un corps humain.
Et boy.
C'était une ronde de loups-garous que le diable avait réunis pour leur faire boire du sang de chrétien et leur faire manger de la viande fraîche.
Ça, est-ce que... Attends un peu, le Honoré Beaugrand, puis il faut que je fasse des recherches, parce que malheureusement, le folklore québécois, je le connais pas énormément. Mais là, est-ce qu'on parle de la chasse-galerie?
Ben, je suis un fan de la chasse-galerie.
Ouais, ben c'est ça.
C'est pas... Ça semble être une autre légende.
Parce que c'est Honoré Beaugrand aussi, là, la chasse-galerie, là. Version écrite et publiée en 1892 par Honoré Beaugrand, la chasse-galerie, un des contes nés de la tradition orale québécoise.
Ah, c'est ça, Honoré Beaugrand, il a écrit la chasse-galerie, mais il a aussi écrit...
C'est ça, parce que la chasse-galerie, je pense, c'est plus le diable qui est le méchant, là, le protagoniste dans cette histoire-là.
On peut faire un lien qui a encore une fois un lien entre la religion et le diable.
Absolument.
Honoré Beaugrand, tu vois, tu me donnes le goût de le lire. J'ai le goût d'aller lire ses contes, parce que je le connaissais pas du tout, celui des loups-garous. Mais c'est une autre légende québécoise, ça, qu'à Trois-Rivières, justement, il y a des matelots qui auraient vu une vingtaine de loups-garous danser autour d'un feu. Puis il y avait un prêtre qui se trouvait à bord du navire qui a demandé une branche de rameau béni, un trèfle à quatre feuilles et deux balles trempées dans l'eau bénite pour se débarrasser des loups-garous. Mais le matelot qui lui apporta les objets omit le trèfle ainsi que de tremper les balles.
Ah,
donc, c'était pas les meilleurs.
Ça n'a pas bien été.
Exact. Deux coups de feu partirent accompagnés d'un signe de croix, mais ils restèrent sans effet. Pour la seconde tentative, le fusil fut chargé avec un chapelet et le coup dispersa la meute.
Oh boy!
Donc, c'est ça la légende des loups-garous qu'on a au Québec.
C'est le fun qu'on parle de balles trempées dans l'eau bénite, parce qu'à l'origine, l'arme de choix contre les loups-garous, c'est les balles argentées,
oui.
Les balles en argent. Il y a un film, d'ailleurs, une histoire de Stephen King là, qui, justement, là, utilise là, ce principe-là des balles d'armes à feu en argent. C'est la seule chose qui peut tuer un loup-garou.
Ah, c'est peut-être pour finir, Jason.
Ben oui.
Parce que tu me parles de l'argent, de la balle d'argent puis des épées d'argent. Je peux pas m'empêcher de raconter une mini-anecdote de mon grandeur nature.
Ben ouais.
Canon de feu. Je mets un peu l'ambiance. Là. Il y avait un pit de sable avec des falaises autour, des grosses falaises. Puis le feu, le soir, se faisait en bas de la falaise, dans le pit de sable. Puis il y avait l'auberge à côté.
D'accord.
Une auberge de bois là, reconstruite comme l'époque. Et quand la lune paraissait durant les nuits de mon grandeur nature l'été, on entendait tout le monde des cris de loups.
Ah.
Puis à un moment donné, on a vu un loup-garou avec un costume incroyable au sommet de la falaise, avec les rayons de la lune qui passaient au travers des arbres, et l'ombre du loup-garou au-dessus de la falaise. Et il a commencé à nous foncer dessus. Il a commencé à courir, à descendre la falaise. Tu sais, là, la scène qu'on a vécue, là, c'était incroyable.
Même en tant qu'adulte, ça doit être assez impressionnant. Vraiment. Pour arriver.
Tu sais, puis le grand aventure que j'ai fait, je trouve ça plate quand je vois des images de GN dans les films, les documentaires, les nouvelles, parce que ça décrédibilise les GN. Alors que mon GN, à moi que j'ai fait, c'était vraiment autre chose. Là. C'était vraiment du...
Mais c'est comme n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a des fois qui sont peut-être un petit peu trop obsédés par la manière que ça va se passer. Il y en a d'autres qui sont un peu plus libres ou qui ont plus de plaisir à le faire. C'est comme n'importe quoi, dans le fond. Ben, il y en a des très bons, il y en a des mauvais aussi.
Exactement. Nous autres, on avait des systèmes de... Parce que c'était durant l'époque de la Renaissance, en 1700 puis on avait des fusils, des pistolets, des arquebuses.
Oui, oui, oui.
Quand le loup-garou a descendu, c'était comme « Chargez vos arquebuses de balles d'argent! » Puis là, on entendait, c'était un système de pétards, fait qu'on entendait « Puis là, tu sais, le loup-garou qui genre font en tout cas une bataille épique, puis tout, là, mais tu sais, ah bon ça, j'ai déjà combattu un loup-garou.
T'as déjà combattu, hein, il y a un Wendigo et un loup-garou, fou d'or.
Je pense qu'on les a toutes faites dans ce GN-là, les créatures, pour vrai, il y en a tellement, là, je vais en raconter d'autres des anecdotes. De
excellent. Hey, Tristan, c'était très complet. Alors, on en sait plus maintenant sur le loup-garou.
Ben, c'était le fun. Ben, j'ai eu du fun. Moi aussi, j'en ai appris énormément.
Puis même si c'est une créature qu'on le sait, là, que c'est prouvé hors de tout doute qu'elle n'existe pas, c'est quand même le fun de revenir aux origines de cette créature-là qu'on voit encore tellement partout.
Ben, c'est ça, exact. Puis je vous parlais un peu au début là, des théologiens, anthropologues, l'origine durant l'époque de l'Antiquité.
Oui.
C'est un gros dossier, ça, avec.
Absolument.
Fait que ça, si moi, je vous inviterais, là, auditeurs, auditrices qui nous écoutaient, vous pouvez aller voir sur le net.
Ben
là.
Oui,
Écoutez, moyen de
on des... a à peine effleuré le
non,
sujet.
Non, c'est ça.
Excellent. Hey, ben merci beaucoup, monsieur.
Ça fait plaisir.
Alors, on vous invite à aller faire « J'aime » sur notre page Facebook. Beaucoup d'interactions. On prend le temps tranquillement, mais on s'est rendu compte, bon, maintenant qu'on a plusieurs fans, il y a de l'interaction de plus en plus sur notre page Facebook.
Ben
on prend toujours le temps d'aller vous partager des petites blagues, des images, des fois des sujets également qui peuvent être intéressants. Et on a plein de suggestions également qui arrivent. Alors, continuez d'en faire des suggestions. On essaie d'en faire le plus possible. On a déjà une liste de sujets là, bien garnie. Alors, on va essayer d'en faire le plus possible. Désespérez pas si vous faites des suggestions, puis que vous les entendez pas pour l'instant, ça pourrait venir éventuellement.
Exactement. Peut-être en finissant, Jason, on vous invite à en parler du podcast
ben
parce
oui.
que ça va bien en ce moment. On
Partagez.
Est dans une bonne lancée.
Absolument.
Puis on devient comme assez, comment dire, t'sais, ça fait, on est plus établi. T'sais, ça fait presque un an qu'on fait ça. Donc, on va procéder à une sorte de petite campagne de promotion là, dans
ben
les
oui,
prochains
absolument.
Jours. Donc, gênez-vous pas pour en parler à vos amis, à la
Tout
famille,
à
et de partager. Ça va nous aider à augmenter notre visibilité sur le web. Là.
Absolument.
Merci
déjà
encore.
Plusieurs milliers de personnes là, qui nous écoutent régulièrement. Alors, continuez comme ça.
Mais oui, merci à vous.
Eh oui. Hey, bye-bye.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Vivez l'expérience du rasage de près le plus efficace de votre petite existence. Grâce au tout nouveau rasoir Biquette à 17 lames. 17 lames. Grâce à cette technologie unique de pointe, les 17 lames du nouveau rasoir Biquette interagissent entre elles pour vous offrir le rasage le plus doux, le plus près, le plus incroyable de votre vie. Les quatre premières lames soulèvent le poil. Les quatre autres lames le soulèvent juste un petit peu plus. Ensuite, les quatre suivantes coupent le poil. Ensuite, les quatre autres arrachent la peau. Et la 17e lame gratte l'os pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de poil dans ce coin-là. Oui, le Biquette à 17 lames. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous raser.
Il est conseillé lors de l'utilisation du rasoir Biquette à 17 lames d'être deux hommes adultes pour le soulever. La compagnie Biquette n'est pas responsable des accidents, des maux de dos ou bien non des coupures qui pourraient chicler partout sur vos murs.